Chapitre 8e. Comment le comte d'Angers et la belle Corisande rencontrèrent un poète gascon et le prirent pour secrétaire. La belle Corisande, se voyant enfin hors de danger, poussa un long soupir de satisfaction et remercia tendrement le chevalier qui s'était dévoué pour elle. « Eh bien, dit Roland, suis-je homme de parole? Et n'avez-vous pas déjeuné chez le roi Marsile, suivant votre désir ?» Elle fixa sur lui ses yeux bleus et profonds comme les flots de la mer Méditerranée. « Comment pourrais-je reconnaître vos services ? » dit-elle. « En me gardant près de vous, » répondit le chevalier. Corisande s'aperçut alors que Roland était blessé et voulut panser elle-même sa blessure. La petite troupe fit halte dans une prairie et la princesse de Grenade détacha l'armure du chevalier. Il avait reçu un coup de lance dans la poitrine, mais le fer n'avait pas pénétré fort avant et Roland l'avait à peine remarqué. Cependant, le sang coulait en abondance, et la belle Corisande, faute de meilleur remède, se vit réduite à l'étancher avec son écharpe de soie. Pendant qu'elle était occupée de ce soin, un cavalier, vêtu d'une casaque bigarrée, s'arrêta près d'eux. Il descendit de cheval et vint baiser la main du comte d'Angers et de la belle Corisande. « Qui es-tu ? » dit Roland. « Je suis le poète du roi Marsile, » répliqua le nouveau venu. « Quel est ton nom ?»« Rimbaud. »« Que viens-tu faire ici ? » ?»« Vous offrir mes services à vous et à la belle princesse de Grenade. » Roland secoua la tête. « Nous n'avons pas besoin de tes services. »« On a toujours besoin de quelqu'un, » répliqua Rimbaud, « même quand on est Roland. » Le chevalier leva sur lui son poing recouvert d'un gantelet. « Eh bien, drôle, que signifie cette familiarité ?» La belle Corisande posa sur ce terrible gantelet sa petite main si blanche et si délicate. « Seigneur chevalier, » dit-elle. Le son de cette voix apaisa la colère du comte d'Angers comme le vent apaise la pluie. Rimbaud, qui avait soutenu sans pâlir le regard terrible du chevalier, s'agenouilla aux pieds de Corisande et baisa le bas de sa robe. « Je savais bien que vous étiez la plus belle dame du monde entier et la plus sage. Comme ce chevalier en est le plus brave et le plus insensé. « Encore ? » s'écria Roland. « Ne vous fâchez pas, seigneur comte, » continua Rimbaud. « Tel que vous êtes, vous me plaisez, et c'est pour vous que j'ai quitté la cour du roi Marsile. « Ventre Mahom, » dit Roland, « le roi Marsile fait là une grande perte. « Une perte irréparable, seigneur comte, » dit Rimbaud. « Je suis musicien et poète. J'amuse ces dames, je chante les exploits des chevaliers, je déride le front des rois, et je distribue à mon gré la denrée la plus précieuse qu'il y ait au monde, et la seule que tous les trésors de la terre ne puissent acheter. « Quelle denrée ? » demanda Corisande. « La gloire, madame, » répondit Rimbaud. « Qui saurait sans nous que la princesse Hélène fut enlevée par le beau Paris, prince de Phrygie, et que le duc Achille coupa la gorge au vaillant Hector, fils de l'empereur Priam ? C'est un Rimbaud de ce temps-là, qui chanta cette histoire sur sa lyre. On l'appelait Homéros, et il fut l'écuyer du duc Achille. « Parbleu, » dit Roland tout pensif, « tu pourrais bien avoir raison, et je te prends à mon service. Chante-nous quelque chose. » Rimbaud sourit, et prenant sa guitare qu'il portait attachée sur le dos, il chanta, en s'accompagnant cette romance, dès ce temps-là si célèbre, « Alvar aimait Élise, Élise aimait Alvar. » Mais le destin divise ce qu'amour unit, car dedans le Portugal, ils avaient pris naissance, et chez ces mécréants, ce n'est pas comme en France, à la seule vertu que l'on doit à la naissance. « Bah, » dit le chevalier, qui n'aimait pas la musique, « ton Élise ne m'amuse pas beaucoup, et ton Alvar pas davantage. Dis-nous quelque histoire mélancolique. « Voulez-vous, » dit Rimbaud, « que je vous raconte les malheurs de la belle princesse de Maroc et du prince d'Écosse, son amant ?» « Nous feras-tu pleurer ?» demanda Corisande. « À chaudes larmes, » répondit Rimbaud. « Le pathétique, c'est mon fort. »« Eh bien, commence, » dit Corisande. « Il est si doux de pleurer à son aise. Mais, auparavant, raconte-nous un peu ta propre histoire. »« Hélas, princesse, » dit Rimbaud, « que me demandez-vous ? Mes malheurs n'intéressent personne. Je suis né à Tarbes, j'ai étudié la musique et la poésie à Toulouse, et j'ai obtenu le prix aux Jeux Floraux. Je passais de là en Espagne, et j'étudiais la magie, l'alchimie et l'interprétation des songes à Grenade, sous le célèbre magicien Moalac. De là, je passai à la cour du roi Marsile. Mais les gens de Saragosse sont des mécréants, qui n'aiment pas la musique, et sans la belle fleur d'épine, qui daignait de temps en temps écouter mes chansons, j'aurais fort mal passé mon temps. Toutes les bontés de la princesse n'empêchaient pas que je ne fusse le plus ennuyé des poètes. Heureusement, je vous ai vu entrer ce matin dans Saragosse. Je vous ai suivi au palais. Votre beauté, madame, m'a ébloui, et la valeur du comte d'Angers a fait le reste. Je cherchais un héros digne de moi. Je l'ai trouvé. Je cherchais une dame qui fût au milieu de toutes les autres, comme le soleil et au milieu des planètes. Je l'ai trouvé aussi, et si vous daignez me recevoir à votre service, je suis le plus heureux des hommes. » La princesse de Grenade sourit en entendant ce discours et détacha de son bras un bracelet orné de diamants. « Tiens, » dit-elle, « poète à la langue dorée, prends ce bracelet et garde-le en souvenir de moi. » « Et moi, » dit Roland, « je te promets la première province et la plus riche du beau royaume que je ne puis manquer de conquérir sur les Sarrasins. » Rimbaud s'inclina avec reconnaissance et baisa la main de Corisande. « Madame, » dit-il avec émotion, « ma vie est à vous. Quelque jour qu'il vous plaise de me la demander, je vous l'offre. Quant à vous, Seigneur, je vous promets la gloire. Tant que vivra la poésie, on célébrera le nom du comte Roland. » « Voyons, » dit Corisande, « continue ton histoire. J'ai tout dit. Tout? Tu n'as jamais aimé ?» Le poète leva les yeux au ciel. « J'ai aimé, » dit-il en soupirant. « J'ai été aimé. J'ai été trahi. Oh, perfide Églantine ! Un autre jour, madame, je vous raconterai mes transports, ma joie, mon désespoir. Aujourd'hui, je vais vous dire les malheurs de la belle Alicia, princesse de Maroc, fille de Miramolin de Fès et du prince Artaban, duc d'Albany en Écosse. » Roland et la princesse s'assirent sur l'herbe pour écouter plus à l'aise ce beau récit, et Rimbaud, assis près d'eux, commença en ces termes. Histoire de la belle Alicia et du prince Artaban, duc d'Albany. Le Miramolin de Fès était le plus grand guerrier et le plus magnanime sultan de toute l'Afrique. Il commandait aux Maures de Fès, de Mykinès et de Tanger, aux pirates d'Alger, aux brigands de Tunis, aux peuples de Tripoli, qui sont jaunes comme du safran, et aux nègres que le Tout-Puissant a condamnés à vivre dans les pays de feu pour les punir du crime de Cham, leur aïeul, qui se moqua de son père Noé. Ses palais, faits de marbre et d'or, étaient remplis de richesses inestimables. On lisait sur la muraille les versets du Coran gravés par les mains pieuses des imams, et 1500 femmes, égales aux plus belles de l'univers, remplissaient son harem. Au milieu de tant de prospérité, une seule chose attristait le pauvre Miramolin. Il n'avait qu'une fille, et comme tous les pères, il en était fort embarrassé, car les dames, qui sont d'ailleurs le chef-d'œuvre de la création, ressemblent, vous le savez, à ces beaux vases de Cataï, où l'on rencontre toutes les merveilles de l'art et de la nature, mais dont la fragilité est extrême. » Ici, le bon Roland interrompit le poète. « Sais-tu que ceci peut sonner comme une impertinence? Prends garde à tes oreilles, Marot, et songe à qui tu parles. » « Rimbaud a raison, » répliqua Corisande, « et si la perfide Églantine l'a trahi, il est naturel qu'il accuse tout notre sexe de perfidie et de fragilité. » En même temps, elle fit signe au conteur de continuer son récit. Cependant, dit Rimbaud, la princesse Alicia croissait en grâce et en beauté, et déjà sa réputation s'étendait aux extrémités de l'univers. Déjà le roi des Garamantes, fier de la conquête de Trapobane et des îles qui sont au nord des tropiques, s'était mis en marche avec une armée pour enlever Alicia. Heureusement, il se prit de querelle sur la route avec le roi des Nubiens et reçut dans la poitrine un coup de lance qui l'envoya peu d'heures après visiter les rivages sombres. 5 autres rois, tous égaux par la naissance et par la valeur, se disputèrent vainement la main de la princesse. Alicia demeura insensible et le Miramolin se désespérait de ne pouvoir offrir à sa fille un mari digne d'elle. En ce temps-là, vivait à la cour du roi d'Écosse un sage et vaillant chevalier, le prince Artaban, duc d'Albany. Tout jeune encore, il s'était déjà signalé dans de nombreux combats et il avait vaincu le comte de Lituanie qui lui disputait le prix de la valeur. Ce héros ne put entendre parler de la princesse Alicia sans en devenir aussitôt passionnément amoureux. Il prend un déguisement, endosse une armure noire et sans écusson, monte sur un vaisseau que les Anglais, dès ce temps-là, grands marins et coureurs d'aventure, envoyaient au Maroc pour acheter du bois d'ébène et des parfums, débarque à Tanger et se présente à la cour du Miramolin, qui donnait ce jour-là un tournoi en l'honneur de sa fille. Vous devinez sans peine que le brave Artaban renversa tous les chevaliers, maures et chrétiens, qui lui furent opposés, et remporta la couronne d'or, prix de la valeur. Le genou en terre, la tête nue, il l'offrit à la belle Alicia. Vous savez comme moi, seigneur comte, que tous les grands seigneurs de la Calédonie ont les cheveux et la barbe rouge, ce qui est une beauté assez nouvelle dans le pays des morts. À peine la princesse eut-elle aperçu cette barbe magnifique qu'elle donna secrètement son cœur au chevalier. Elle eut cependant assez de force pour dissimuler ses sentiments devant la nombreuse assemblée qui regardait ce spectacle. Elle prit, avec un air de dignité qui convenait admirablement à la plus belle princesse de l'univers, la couronne que le duc d'Albany lui offrait et la posa sur sa propre tête aux applaudissements du peuple. Comme le chevalier allait se retirer, frappé jusqu'au fond de son cœur de la grâce et de la beauté de cette admirable princesse, le Miramolin se leva et, lui présentant la main, lui dit qu'il ne doutait pas qu'un guerrier aussi brave et aussi habile dans les combats n'appartînt à une race illustre et qu'il le priait de lui faire l'honneur d'assister au banquet qui devait suivre le tournoi. Artaban s'inclina avec respect et, sans dire son nom ni l'objet de son voyage, il suivit le Miramolin dans son palais et se mit à table entre ce grand prince et la belle Alicia. Il serait impossible de vous dire la conversation des deux amants, leur transport mutuel et les serments d'amour qu'ils échangèrent sous les yeux mêmes du Miramolin, lequel, étant devenu sourd par suite d'une blessure qu'il avait reçue en combattant contre l'empereur du Sénégal, n'entendait pas un mot de ce que disaient la princesse et le duc d'Albany. Enfin, le repas fini, au grand chagrin d'Artaban, qui regagnait tristement son logis, lorsqu'une jeune dame vêtue de velours noir et masquée lui prit la main dans un corridor obscur et le pria de se laisser bander les yeux. Le duc d'Albany, après avoir hésité quelques instants, suivit son guide et par mille détours arriva enfin dans une chambre magnifiquement meublée et tapissée où l'attendait la belle Alicia. Son bandeau tomba. La suivante se retira discrètement et il se jeta lui-même aux genoux de la princesse de Maroc. « Prince, lui dit-elle en rougissant légèrement, car je ne doute pas que vous ne soyez d'une illustre origine. Ne prenez pas, je vous en supplie, une trop fâcheuse opinion de ma faiblesse. Je vous aime et je sais que le Miramolin, mon père, a de l'amitié pour vous. Voulez-vous m'épouser ?» C'est avec cette promptitude et cette simplicité de langage que les mariages se concluent à la cour de Maroc. Artaban sentit bien qu'une telle démarche témoignait plus que toute autre chose de la pudeur et de la vertu de sa belle fiancée. Il la serra tendrement dans ses bras et lui passa au doigt un anneau nuptial. Aussitôt la princesse frappa des mains. À ce signal, la suivante accourut, accompagnée d'un iman qui les maria sur l'heure, et sans attendre de plus amples informations. Après quoi, l'iman et la suivante se retirèrent et les laissèrent seuls. Le matin, un peu avant le lever de l'aurore, la jeune suivante fit sortir secrètement le prince Artaban du palais, et pendant plusieurs mois le mariage de la princesse et du chevalier resta secret. Mais enfin la malignité publique, qui n'épargne personne, s'inquiéta des absences nocturnes du duc d'Albany. On épia ses démarches, on le suivit, on le dénonça au Miramolin. Le premier mouvement de ce sultan féroce et sanguinaire fut de vouloir couper le cou à sa fille et à son gendre. Il assembla son conseil, suivant l'usage des rois dont les filles ont fait quelques fredaines, et tout d'abord, déposant sur la table son cimeter, il menaça de fendre le crâne à celui de ses conseillers qui ne voterait pas la mort des coupables. Il croyait, avec assez de raison, avoir trouvé le meilleur moyen de s'assurer l'unanimité des voix. Effectivement, tout le monde se hâta d'opiner comme il l'avait désiré. Cependant, un sage vieillard qui avait servi sous le Miramolin et sous ses deux prédécesseurs, remua sa tête blanchie et d'une voix un peu cassée, mais claire et distincte, déclara qu'il était trop près de la tombe pour se soucier beaucoup du cimetière du Miramolin et qu'il était prêt à dire son sentiment dût-il déplaire à ce sage et vertueux monarque. Le Miramolin, irrité et roulant autour de lui des yeux farouches, tira du fourreau son cimetière et attendit en silence le discours du vieillard. Celui-ci fut d'avis que la princesse avait grand tort de ne pas demander le consentement de son père et d'épouser le premier venu sans prendre des renseignements sur sa famille et ses antécédents. Mais il ajouta qu'en ces temps malheureux, les maris étaient si rares et si recherchés, et les filles si difficiles à contenter et si peu autorisées par la nature à l'être, si quinteuses au logis, si parées au dehors, si portées au luxe et aux fêtes, et si peu à élever leurs enfants et à faire la joie de leur mari, qu'on devait savoir gré à tout homme assez brave pour se marier et faire tous ses efforts pour ne pas le décourager d'un métier périlleux et difficile. Dit Roland, voilà un conseiller bien impertinent.
Seigneur comte, répliqua Rimbaud, et vous, madame, daignez vous souvenir que ce n'est pas moi qui parle, mais le sage vieillard. Il avait tort, j'en conviens. Et c'est à sa goutte et à ses rhumatismes qu'il faut attribuer ce discours malsonnant.
Va, dit Corisande en riant, je te pardonne, mais abrège ce discours.
Bref, continua Rimbaud, le vieux radoteur fut d'avis qu'il fallait se contenter d'une légère semonce et approuver de bonne grâce un mariage sans remède, à la seule condition qu'Artaban embrasserait la religion de Mahomet. Le duc d'Albany reçut cet ordre avec indignation. Il refusa d'abjurer et fit serment d'abattre la tête du premier qui oserait en renouveler la proposition. C'est en vain que la belle Alicia se jeta à ses genoux et à ceux du Miramolin. Elle ne put fléchir ni l'un ni l'autre. Le Miramolin, désespérant de venir à bout de la généreuse résistance d'Artaban, donna ordre de le mettre à mort et fit enfermer Alicia dans une tour au bord de la mer. 20 des plus braves chevaliers de la cour de Fès furent chargés de couper la gorge au fier Artaban. Ce guerrier généreux, averti d'avance, les attendait tout armés et montés sur son cheval de bataille. À la vue de ses ennemis, il mit sa lance en arrêt, se raffermit sur les étriers, piqua des deux et s'avança au galop sur eux. Le combat fut terrible et acharné. L'amour fit faire des prodiges au duc d'Albany. Il tua plusieurs des assaillants, mit les autres en fuite et s'éloigna lui-même de Fès pour chercher sa bien-aimée. Après plusieurs mois de vaines recherches, comme il errait un jour sur le bord de la mer retentissante, il entendit la voix chérie d'Alicia qui l'appelait. Cette infortunée princesse était enfermée au second étage de la tour et le hasard, ou plutôt la divine providence, avait amené son amant sous sa fenêtre. Artaban, plein de courage et d'ardeur, descend de cheval, enfonce la porte de la tour, met en fuite les lâches gardiens d'Alicia, la prend en croupe derrière lui et reprend sa course vers ces contrées lointaines où le fleuve Sénégal roule ses flots tumultueux. Mais la fatigue, la chaleur et le chagrin avaient affaibli la belle Alicia. Après 2 jours de marche, il fut forcé de s'arrêter dans un bois de nopal et de la déposer mourante sur le gazon. Peu d'instants après, un lion parut. Artaban, affamé, et faute de gibier plus commode à tuer et plus délicat, courut l'épée haute sur le lion, qui fit retraite sans frayeur apparente et le conduisit jusqu'à une grotte. C'est là qu'un ermite était assis et lisait l'évangile en compagnie du lion qu'il avait apprivoisé. Artaban, étonné, demanda du secours à l'ermite.
« Seigneur, répondit ce bon vieillard à la barbe blanche, je vous attendais depuis hier. Un songe que le Seigneur a daigné m'envoyer m'avertit que je vais baptiser une jeune infidèle. Montrez-moi le chemin. Je suis prêt à vous suivre. » En même temps, il se mit en marche et retrouva la belle Alicia. Il l'instruisit rapidement des vérités principales de la religion chrétienne, car le temps pressait, et Alicia allait rendre le dernier soupir, puis il la baptisa. « Allez, ma fille, lui dit-il, dans le sein du Dieu des chrétiens. » Elle reçut le baptême avec une foi admirable, embrassa son époux et mourut. Le lendemain, l'ermite la suivit au tombeau et l'infortuné Artaban prit sa place au désert. Il y mourut d'amour et de chagrin, 50 ans après.
Roland et Corizan donnèrent à l'historien tous les éloges qu'il méritait. La princesse de Grenade ne put s'empêcher de trouver quelque rapport entre sa propre histoire et celle de l'infortunée Alicia. Elle vit que Roland était tombé dans une profonde mélancolie, et elle se détourna pour cacher sa propre émotion. Petit à petit, l'amour faisait son chemin dans ce jeune cœur.